D'accord. Décortiquons un peu tout ça. On passe notre vie à traverser des places publiques, n'est-ce pas, voilà. On y carre la voiture, on y boit un café, on court acheter du pain en marchant à toute vitesse sur du goudron.
Oui, c'est vraiment l'espace le plus banal qui soit au quotidien.
Exactement, l'espace le plus banal. Et pourtant, sous ces dalles, sous ces pavés, il y a littéralement des millénaires de secrets, des scandales monumentaux et des bouleversements sociaux gigantesques.
Ah ça oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
Donc, pour comprendre comment un simple carrefour urbain cache en réalité l'ADN de toute une communauté, eh bien la mission du jour pour cette nouvelle exploration en profondeur, c'est de plonger dans l'histoire fascinante et l'évolution urbaine des places de la ville de Rodez.
Une ville avec une histoire très très riche.
Totalement. Et pour nous guider, nous avons la chance d'avoir entre les mains une véritable machine à remonter le temps. C'est le bulletin spécial numéro 43. Il a été édité en septembre 2009 par le Cartoclub Aveyronnais à l'occasion de leur salon.
C'est un document exceptionnel et il faut vraiment qu'on prenne un instant pour souligner le travail colossal derrière cette publication.
Oui, un vrai travail d'orfèvre.
Surtout le travail de Guy Mézard, qui en est le rédacteur en chef et le concepteur de la mise en page. Il a su orchestrer une collection impressionnante de textes historiques très pointus.
Avec beaucoup d'images aussi.
Énormément. Plus de 200 reproductions visuelles. On parle de cartes postales anciennes, de correspondances. C'est une mine d'or visuelle et textuelle.
Et justement, ces images, elles cassent immédiatement un mythe. Moi, j'ai toujours eu cette vision très, disons, romantique de la ville médiévale. Tu sais, la petite place pavée, bien ordonnée, pittoresque.
Ouais, la carte postale pour touristes, quoi.
Pile poil. Mais quand on regarde au commencement du résumé de son article Les places de Rodez, l'historien Roger Béteille nous explique que la ville médiévale et d'Ancien Régime, c'était un désordre absolu.
Ah mais c'est le chaos total. Béteille explique qu'à l'époque, Rodez, c'est moins de 7000 habitants. Les places n'étaient même pas bien délimitées.
Pas de belles esplanades, donc.
Pas du tout. C'était souvent juste de simples carrefours complètement boueux. L'urbanisme tel qu'on le conçoit n'existe pas. On patauge, les charrettes s'enlisent.
C'est fou d'imaginer ce désordre de boue et de pierre. Mais alors, le déclic, c'est quand? Quand est-ce que ça devient les places qu'on connaît?
Le basculement, c'est le 19e siècle. Avec l'arrivée du chemin de fer et de l'automobile plus tard, la ville se transforme radicalement.
Il faut paver, aligner.
Exactement. Et c'est là que les places prennent leur véritable rôle urbain.
Sauf que, en creusant pour aménager ces places modernes, on est tombé sur un os.
Un très gros os, oui.
Carrément des colonnes colossales. L'archéologue Philippe Gruat en parle au commencement du résumé de son interview intitulé « Le dessous des places ». Il révèle un truc de dingue. La mairie actuelle de Rodez est construite exactement sur les ruines du forum antique de Ségodinum.
Ségodinum, le nom romain de Rodez.
Voilà, on ne parle pas de trois cailloux là, c'est un complexe monumental.
Ce qui est fascinant ici, c'est la pérennité remarquable des institutions civiques. Le centre du pouvoir romain du 1er siècle est resté, millénaire après millénaire, le centre du pouvoir moderne.
C'est incroyable quand on y pense.
Oui, le maire d'aujourd'hui prend ses décisions juste au-dessus des fondations où les magistrats romains prenaient les leurs. Et Gruat rappelle bien qu'il y a encore énormément de vestiges à découvrir sous les pieds des passants.
Une vraie petite Pompéi endormie. J'adore l'idée. Mais si les fondations romaines, c'est grandiose, la modernisation au XIXe siècle, ça a amené des situations, disons, beaucoup plus cocasses.
Ah, tu penses à l'eau?
Je pense à l'eau, oui. Surtout au plus grand scandale de la ville. C'est Jean-Michel Cosson qui raconte ça au commencement du résumé de son article. À Rodez, l'eau coule de source.
L'affaire de la fontaine de Somson.
C'est ça. En 1861, on érige cette nouvelle fontaine sur la place d'Armes. Et la statue représente Samson, mais un Samson complètement nu.
Avec une musculature, disons, très impressionnante.
Et très visible. Évidemment, ça a choqué la population très prude de l'époque. C'était l'émeute morale. Et le meilleur dans tout ça, c'est la réaction du maire, Adrien Rosier.
Il ne l'a pas défendu du tout?
Pas une seconde. Il s'est moqué de la fontaine pour calmer le jeu. Il a déclaré publiquement, en regardant les proportions, que le bassin était, je cite, « un bien petit pot de chambre pour un homme si grand ».
C'est une pirouette brillante, mais ça a tué l'œuvre sur la place publique.
Et il y a une carte postale magnifique décrite dans le bulletin qui illustre ce scandale. On y voit la statue de Samson reléguée et cachée tout en bois du jardin du foirail.
Dans les buissons, presque.
Voilà, puni. Et il finira même tragiquement fondu par les nazis pendant la guerre.
Ce qui est triste, c'est que cette histoire pourrait laisser croire que les habitants de la région n'aimaient pas l'art.
Oui, le cliché du paysan un peu rude.
C'est exactement ce que Roberto Sat dénonce. Au commencement du résumé de son article « La statuaire de Rodez », il combat farouchement ce préjugé tenace. Le préjugé selon lequel les Rouergas ne seraient doués que pour les mathématiques et ignoreraient les beaux-arts.
Alors que la ville a toujours exposé ses artistes ?
Totalement. Et le bulletin nous offre un focus visuel parfait là-dessus. Il y a une carte photo extrêmement précise signée Noiriga. Elle illustre la mise en place de la fameuse statue de la Victoire ailée.
Une œuvre de Denis Piech, c'est ça ?
Oui, le célèbre sculpteur local. Et sur l'image, on voit la statue s'insérer majestueusement entre les colonnes du monument aux morts. C'est la preuve visuelle que l'art avait toute sa place.
Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, une place publique, ce n'est pas qu'un musée.
Loin de là.
C'est la vie qui grouille, l'économie, la sueur. Et Gilbert Régourd en parle brillamment au commencement du résumé de son article « Foire et marché ». On y découvre l'importance vitale de ces espaces. Le foirail, par exemple, c'était le cœur battant du marché aux bestiaux.
Et la place de la Madeleine pour un tout autre commerce.
Oui, c'était le repère des vendeurs d'ail et d'oignons. Et encore une fois, les images parlent d'elles-mêmes. Le document décrit d'anciennes cartes postales éditées par Carrère. On y voit une foule écrasante d'hommes en blouse noire.
Les fameux maquignons ?
Exactement. Ils sont là, au milieu des bœufs, de la race d'Aubrac, en pleine négociation. Et en contraste, on a aussi une magnifique carte CPM, une carte postale moderne en couleur, des éditions BOS.
Ah oui, celle du samedi.
Oui, le marché du samedi sur la place de la Cité. C'est une explosion visuelle, un vrai patchwork éclatant de toiles de tentes multicolores, de fruits, de légumes.
C'est vraiment la vie quotidienne dans toute sa splendeur. Et cette vie quotidienne, elle est aussi bourgeoise. Jean-Pierre Krum l'explique très bien au commencement du résumé de son article « La place d'armes 1900-1930 ».
Il dit que la place, c'est un théâtre, n'est-ce pas ?
Un véritable théâtre, oui. Un endroit pour voir et être vu. D'ailleurs, il décrit une carte postale de l'année 1900 qui est particulièrement amusante et touchante.
Prise sur le vif.
C'est ça. Sur la place d'armes, on voit deux cuidants, très élégants, avec canne et chapeau. L'un d'eux porte un parapluie noir immense, presque comique.
Et à leurs pieds, il y a toute une histoire.
Oui. Pendant qu'ils posent, un jeune cireur de chaussures s'occupe de leurs bottines directement sur les pavés. Et juste à côté, il y a un chien qui regarde tout ça avec un regard profondément ennuyé.
C'est un instantané génial. Mais au-delà des marchés et des promeneurs, il y avait aussi un côté beaucoup plus industriel, en plein centre-ville.
Ah oui, ça, on l'oublie souvent.
Guy Mazard nous le rappelle au commencement du résumé de son article « L'îlot Bonnataire ». Il explique qu'en plein cœur de la ville, il y avait une énorme activité industrielle.
Avec l'atelier de construction mécanique.
Et la fonderie Chavernac. Et pour illustrer ça, ce ne sont pas des photos de l'usine, mais d'anciennes cartes de correspondance commerciale en tête de ces entreprises. Ça prouve que le cœur de Rodez crachait de la fumée et résonnait du bruit du métal.
Alors forcément, avec tous ces usages de l'art, du bétail, des élégants, des usines...
Il n'y a pas la place pour tout le monde.
Exactement. Et ça crée des disputes interminables.
Et comment ? Gilbert Régourd aborde ça au commencement du résumé de son autre article, intitulé « Place d'armes, polémique ». Depuis 1747, cette place est une source constante de conflits.
Et le XXe siècle n'a rien arrangé ?
Absolument pas. Les débats des années 70 sont passionnants. C'était l'opération Ville Moyenne. En 1975, la mairie décide d'aménager la place en zone piétonne de prestige.
Et ça a coincé politiquement.
Très fort. Ça a opposé frontalement la mairie aux syndicats ouvriers. La CGT, la CFDT, rejoints par le Parti Socialiste, ils dénonçaient, je cite, « des réalisations de prestige qui se faisaient au détriment des vrais besoins des travailleurs ».
Bien sûr, on ne prend aucun parti ici, mais c'est crucial de voir comment l'espace public est toujours par nature un terrain de friction sociale et politique.
C'est l'essence même de la ville.
Tout à fait. Et si l'on relie cela à une vision plus globale, il faut littéralement prendre de la hauteur. C'est ce que propose Alain Bouza au commencement du résumé de son article « Vue d'en haut ».
En s'éloignant des polémiques au sol.
Oui. L'évolution de la photographie a permis ça. D'abord depuis les balcons, puis carrément par avion et par hélicoptère. Et quand on voit ces places depuis le ciel, elles apparaissent différemment.
Comme les artères d'un organisme vivant.
Exactement. Et ces artères doivent respirer. C'est la belle note sur laquelle Gilbert Régourd insiste au commencement du résumé de son article « Place aux espaces verts ».
Les poumons verts de la ville.
Voilà. Il rappelle que ces places arborées, comme le quinconce, étaient et restent les poumons indispensables d'une ville qui, sans eux, s'encombre et étouffe.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond, après avoir parcouru tous ces textes et toutes ces cartes postales? Eh bien, ça prouve que les places publiques ne sont pas que du béton ou des pavés.
Non, vraiment pas.
Ce sont les cœurs battants d'une communauté, économique, artistique et politique.
C'est la synthèse parfaite, ce qui m'amène à une réflexion que je voudrais laisser à méditer pour quiconque nous écoute aujourd'hui.
Je t'écoute.
Si on y réfléchit bien, ces places publiques sont passées de champs de foire complètement boueux pour les bestiaux, à des parkings pour voitures au XXe siècle, puis à des zones piétonnes très paysagées.
La transformation est constante.
Oui. Alors, à quoi ressembleront ces espaces dans 100 ans? Surtout face aux changements climatiques qui vont nous forcer à chercher l'ombre et face à la numérisation croissante de nos vies qui vide un peu les rues de leurs échanges physiques.
C'est une vraie question.
Et surtout, et c'est le clin d'œil à l'archéologie, quels objets étranges, quelles reliques de notre époque les archéologues du futur déterreront sous ces mêmes places, juste au-dessus du Forum romain?
Ah, ça, mystère. En tout cas, ça donne envie de regarder sous ses pieds en marchant. Merci pour cet éclairage fascinant. C'est la fin de notre exploration en profondeur pour aujourd'hui. À la prochaine.